Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Aujourd'hui, chers amis de Radio Alpa, on vous raconte, avec quelques jours de retard, la fête de la Lune, un moment très important pour les pays d'Asie du Sud-Est, particulièrement en Chine et en Corée, et aussi au Japon, bien sûr. Alors, c'était le 17 septembre. Alors, cette fête est née d'une belle légende taoïste et est comparable en importance à la fête du printemps. Le nouvel an
voilà.
Asiatique.
C'est ça.
Et c'est une fête qui dépasse toutes les frontières. Et on la fête en France maintenant.
Bah, bien sûr.
Alors, pour prolonger ce bon moment, Didier, tu vas nous expliquer le monde inspiré et inspirant des jardins zen.
J'adore ça.
Oui, on avait été visiter le parc de Maulévrier.
C'est ça.
Un peu.
Voilà,
c'est on en avait parlé
un digne représentant
oui.
Pas loin de chez nous.
Voilà, mais là, on va remonter le temps un petit
oui,
peu.
Oui, c'est ça.
Alors, chaque année, plusieurs pays asiatiques célèbrent le soir du 15e jour du 8e mois lunaire, la fête de la mi-automne, plus connue sous le nom de fête de la lune en Chine, ou Chuseok en Corée, et Tsukimi au Japon, et au Vietnam, on dit Tet Trung Tu. Alors, c'est le deuxième festival le plus important, donc, après celui du Nouvel An, et c'est une fête qui existe depuis plus de 3000 ans. C'est un moment heureux où les familles se réunissent pour admirer la lune et la remercier pour l'abondance des récoltes. Alors il faut savoir, alors nous on n'en a pas forcément conscience en Occident, mais la lune, le 15e jour du 8e mois,
oui.
Elle est particulièrement brillante, plus ronde et plus belle que le reste de l'année.
Ah,
il
n'y
a pas de hasard.
Okay.
C'est parce que c'est vraiment, ça coïncide bah oui, avec la fin des récoltes,
j'ai pas
mais aussi
dans
à la beauté de la lune. Alors, on espère qu'il n'y aura pas de nuages.
Hein. Voilà, c'est ça.
La prochaine fois. L'année prochaine, on se tient prêt.
Okay.
Alors, c'est aussi le moment de sortir pour voir les lanternes qui décorent les rues, hein, partout vraiment, et d'en faire voler comme un symbole d'espoir pour l'année suivante. Alors là, le spectacle d'envol des lanternes, c'est toujours un moment absolument magique. Oui, c'est féerique, on peut
d'accord.
le dire. Alors, il y a plusieurs légendes qui sont à l'origine de cette fête, dont celle de Changé. La plus célèbre.
Bah alors, du coup, moi, je veux en savoir plus. C'est quoi la légende de Changé?
Ben moi, j'étais très contente de découvrir la légende de Changé parce que je ne la connaissais pas
okay.
suffisamment pour en parler. Alors, difficile de dire depuis quand elle existe, cette légende qui est transmise depuis des générations. Il y a plusieurs versions hein, de Changé et j'en ai choisi une. Alors,
d'accord.
c'était « Il était une fois » et il y a très très longtemps, il y avait 10 soleils dans le ciel.
Ah oui.
Alors, il faisait forcément extrêmement chaud, tout le temps, et la nuit n'existait pas. Alors, la chaleur extrême rendait les cultures difficiles, et la population était affamée. Alors, un jour, oui, un maître archer et mari d'une très jolie jeune femme, Changé, décida d'en abattre neuf. D'abattre neuf des dix soleils.
Des soleils, oui, bien sûr.
Voilà. Et en récompense, la reine-mère de l'Ouest, un personnage des légendes taoïstes, bah lui a offert un élixir d'immortalité, parce que bien
ah
sûr,
oui.
il a réussi à abattre les neuf soleils.
Forcément.
Voilà. Mais Ouyi n'a pas voulu le boire sans sa femme qui l'adorait.
Ah.
Mais l'élixir était seulement pour lui.
D'accord.
Alors bon, il l'a quand même accepté,
oui.
mais il l'a donné à Changé.
D'accord.
Pour qu'elle le cache. Voilà, pour, il avait besoin d'un temps de réflexion.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, un des élèves de Ouyi avait entendu leur conversation et profitant de son absence, il a tenté de voler l'élixir.
Bah tiens.
Mais Changé a voulu l'en empêcher, mais bien sûr, c'était quand même une frêle jeune femme.
Ouais.
Et bien évidemment, elle n'a pas pu l'empêcher de le voler, mais... En fait, Changé a bu l'élixir avant lui. Elle a réussi, je dirais,
voilà.
à le boire avant qu'il se saisisse de la bouteille.
Je comprends.
Et bah, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est elle qui est devenue immortelle.
C'est ça, Didier.
D'accord. Alors, ok, donc maintenant,
qu'est-ce
il y a un problème. Elle est immortelle, pas lui. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ensuite ?
Alors, Changé n'était pas fière du tout d'avoir bu l'élixir toute seule et
Bien
elle
sûr.
A voulu cacher la vérité à son mari.
D'accord.
Et alors, Alors ça, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé comment. Oui. Elle s'est enfuie sur la Lune. Alors d'accord. Peut-être que d'avoir absorbé l'élixir lui a donné aussi des super pouvoirs.
Faut croire. Ou mais alors elle a rencontré Méliès. Là c'est autre chose.
C'est autre chose, oui. On pourra peut-être en parler d'une autre fois, mais en tout cas, voilà, Shangai s'est enfui sur la Lune.
D'accord.
Et il était donc parti chasser, peut-être, je ne sais pas.
Il n'était pas là.
À son retour, il n'a pas trouvé sa femme et ça l'a rendu vraiment triste, même désespéré. Mm-hmm. Et d'autant plus qu'il ne savait pas comment faire pour la retrouver.
D'accord.
Alors, c'est alors qu'un des 8 immortels, alors ça, on expliquera ça bientôt.
Ah,
il y a 8 immortels dans les légendes taoïstes.
Okay.
Et donc, un de ces immortels a expliqué à Ouyi comment faire. Il devait fabriquer des gâteaux ronds à base de farine, les placer au nord-ouest de sa maison et crier le nom de sa femme pour qu'elle revienne.
Ah, ça marche
elle
comme
s'appelait
ça.
Pas Aline.
D'accord, ok. Ah.
Oui, okay. C'était Shangai.
C'est assez étonnant.
Et donc,
c'est une légende,
ça,
voilà, c'est ça.
Oui, et donc, il devait donc crier le nom de sa femme pendant le festival de la mi-automne. Mais ça n'a pas marché.
Ah mince.
Alors, Ouyi ne pouvait voir finalement que le visage de Shangai sur la Lune. Nous, on voit Pierrot.
D'accord.
Lui, il voyait Shangai.
D'accord.
Et pour que Shangai se sente moins seul, Ouyi a laissé chaque soir ses desserts et ses fruits préférés sur une table dans le jardin. Mm-hmm. Voilà, donc il a continué à le faire jusqu'à sa mort.
Ah oui.
Et cette tradition des gâteaux et des offrandes se perpétue encore aujourd'hui.
D'accord. Et alors, ces fameux gâteaux ronds sont des gâteaux de lune, alors?
C'est ça, ce sont les fameux gâteaux de lune.
Ah oui.
Ils sont dégustés par toutes les familles. Alors, ce sont de délicieux petits gâteaux ronds, sucrés, remplis de pâtes de graines de lotus ou de pâtes de soja ou de diverses graines. Et ce sont de véritables symboles de l'événement. Mmh. Mais bon, il faut savoir que c'est tellement bon, les gâteaux de lune, qu'on en trouve toute l'année dans les magasins asiatiques et particulièrement dans les pâtisseries du 13e à Paris.
D'accord.
Ceci dit, il y a quand même des gâteaux de lune avec la lune, quelquefois dessus, qui est imprimée. Donc ceux-là sont vraiment spécifiques de la fête de la lune.
C'est ceux-là qu'on va trouver, qu'on a en ce moment, vraiment.
C'est ça.
Ok.
Alors, autre légende et autre époque. Au 13e siècle, les Mongols de la dynastie Yuan occupait la Chine et le peuple Han, la dynastie qui leur a succédé, voulait prendre le pouvoir. Alors pour ce faire, un des généraux eut une idée, c'était celle de cacher des messages dans les gâteaux de lune pour les distribuer clandestinement pour pouvoir provoquer une révolte.
Ah, d'accord. Bon.
Et sur ce message était écrit « Le 15e jour du 8e mois, tuez les barbares ». Ah. Et c'est ainsi qu'est née la dynastie Ming.
D'accord.
La plus longue de l'histoire de la Chine.
Ah ben bah très bien. Alors, voilà. Il y a d'autres légendes importantes comme ça sur la fête de la Lune?
Alors oui, il y a une autre version du conte, toujours avec Shangai. Alors pour avoir trahi son mari, elle a été punie par la reine de l'Ouest.
Ah.
Donc un des personnages des légendes taoïstes.
D'accord.
Et la reine de l'Ouest l'a transformée en un vilain crapaud, condamné à jamais à vivre une existence solitaire sur la Lune.
D'accord.
Alors, d'autres variantes expliquent que Shangai était devenue dépendante de l'élixir d'immortalité et qu'elle passait ses journées à le préparer et à le consommer. Et dans cette version, un lapin a pitié de Shangai et va aller lui tenir compagnie et l'aider à préparer l'élixir.
Okay.
Alors, ce petit lapin, il est présent dans toutes les versions du conte. Hein. On l'appelle le lapin lunaire ou le lapin de Jade.
D'accord.
Il est la seule compagnie qu'a Shangai sur la Lune, faut le savoir.
Okay.
Ça a été sa récompense au petit lapin, vous allez voir pourquoi. Alors, on voit beaucoup de petits lapins à cette époque au Japon et en Chine.
D'accord.
C'est un petit personnage très adorable. Alors, on va écouter la chanson originale de la fête de la mi-automne et la fête de la lune, Didier. J'ai pas d'autres... Mais c'était une jolie chanson, on avait bien aimé.
C'est vrai.
On s'écoute ça.
Ben on va vous faire profiter. Écoutez.
Mi也几时有八九问青天不知天上宫阙今夕是何年我欲乘风归去 在人间。
Vous êtes toujours avec Asialogie sur Radio Alpa. Et alors maintenant, en fait, moi j'ai besoin d'en savoir plus sur ce lapin si spécial là. Tu nous as tenu en haleine. Je veux savoir, moi.
Mais oui, ce lapin, il est très représenté en Asie. Alors, c'est la légende taoïste du lapin de jade. Alors, c'est une légende très triste et très philosophique. Alors, on raconte que 3 sages des 8 immortels se transformèrent en 3 vieillards pour évaluer la générosité des animaux. Mmh. Alors pour cela, ils allumèrent un feu et ont convoqué un singe, important les singes, hein, oui. Pérégrination vers l'ouest, tout
oui,
ça.
Voilà.
Un renard, hein, le fameux
aussi,
renard à 9 queues, bien
queue,
sûr.
Voilà.
Et puis un lapin. Et leur demandèrent, donc les vieillards leur demandèrent de quoi manger. Alors le renard et le singe ont bien voulu partager avec eux leur nourriture.
D'accord.
Sympa. Mais le lapin n'avait rien à donner. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le lapin ? Il a sauté dans le feu et il s'est offert comme repas.
Ah, carrément ?
Ah oui, carrément.
Eh ben.
Alors, les immortels ont été surpris et émus par son geste. Et ils ont béni le lapin et ils l'ont envoyé vivre dans le palais de la Lune pour tenir compagnie à Shangui, la
D'accord.
princesse de la Lune.
Ça explique cela, ok.
Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont indissociables tous les deux.
D'accord.
Shangui et le lapin.
Okay.
Et la lune, bien
et
sûr.
Et la lune, forcément.
Alors, pour terminer, Shangui a donné son nom à la mission lunaire chinoise. Donc, c'est la mission Shangui.
D'accord.
Et il faut savoir que Shangui 6 a récupéré 2 kilos de roches de la face
oui,
cachée de la
vieux,
lune
ça,
en juin 2024.
Oui, je me souviens, j'ai entendu parler
et
de ça.
Et c'est une première
ah,
mondiale.
Oui, oui,
parce qu'on n'est jamais allé de l'autre côté, on est toujours allé sur la face éclairée.
Il y a une vraie guerre là, entre eux et les Américains pour être les premiers.
Voilà.
D'accord. Alors bon, ça c'était la Chine.
Oui.
Mais alors en Corée, au Japon, il y a la fête de la lune aussi, mais elle est différente ?
Oui, alors il y a beaucoup de points communs, il y a des légendes similaires. Alors en Corée, les origines de Chuseok sont floues, mais c'est toujours une fête majeure dans les deux Corées, du Nord comme du Sud. Et au même titre que Solal, alors c'est le nouvel an lunaire, le nouvel an asiatique, hein, qu'on appelle Solal en coréen.
D'accord.
Et cela viendrait des rites anciens du chamanisme, hein, qui étaient pratiqués à la pleine lune pour célébrer les récoltes. Alors cette année, les Coréens du Sud ont fêté Chuseok du 16 au 18. Ils ont eu 3 jours de vacances énormes offerts par le gouvernement. Mmh. Donc ça, c'est toujours comme le nouvel an asiatique, de grands déplacements dans tout le pays.
J'imagine.
Voilà. Alors, c'est aussi en Corée du Sud l'occasion de remercier les ancêtres par des rituels qui varient selon les familles. Oui. Et ils ont aussi des gâteaux de lune, ça s'appelle les Songpyeon. Et par contre, ils sont en forme de demi-lune. Ils
D'accord.
sont pas complètement ronds.
Pas la même chose.
Alors voilà, et puis c'est là que, devant cette table, que les membres de la famille s'inclinent 2 fois pour saluer les défunts. Et il faut noter qu'en Corée, il ne faut jamais s'incliner plus d'une fois devant une personne vivante. On s'incline qu'une fois devant une personne vivante.
Sinon, c'est les morts, quoi.
Deux fois, c'est devant,
les ancêtres. Ça va être moins bien perçu,
voilà.
J'imagine.
Donc, on mange beaucoup en Corée, bien sûr, et on boit beaucoup.
Oui, ça c'est continu, quoi. Hein.
Voilà, il y a des animations typiques, en plus des rassemblements familiaux.
D'accord.
Alors, il y a le théâtre traditionnel. Ils sont très traditionnels, les Coréens, pour
D'accord.
tout ce qui concerne ce genre de fête.
Ok. Alors, on a fait la Chine, la Corée. Tu vois où je veux en venir ?
Oui.
Au Japon.
Le Japon. Alors, ça s'appelle Tsukimi.
Oui.
Alors, la tradition remonte à l'époque de Heian. Donc, c'est ancien, c'est 8e siècle jusqu'au 12e siècle, Heian. Alors, donc, depuis donc, le 8e siècle, donc, c'est d'abord l'aristocratie japonaise qui se rassemblait pour écouter de la musique et réciter ou composer des poèmes au clair de lune. Ça nous rappelle quelque chose.
Oui.
Hein.
Un petit peu quand même.
Voilà, donc, et puis quelquefois ils le faisaient sur un bateau.
Mmh.
Et au XVIIe siècle, la coutume deviendra plus populaire et sera associée aux traditions existantes où les récoltes de riz étaient offertes aux dieux. Alors Tsukimi est une célébration plutôt solennelle, il associe nourriture traditionnelle, décoration et nature, et c'est aussi le jour où on se rend dans les sanctuaires pour brûler de l'encens et faire des offrandes de nourriture aux divinités de Shinto.
Mmh.
Voilà. Alors, il faut savoir que lorsque la lune n'est pas visible au moment du festival, les célébrations ont quand même lieu. Mais au Japon, on les appelle Mugetsu ou Ugetsu, ce qui signifie sans lune ou lune de pluie.
D'accord.
Alors, pas de gâteau de lune au Japon, mais on mange des mochi, la fameuse pâtisserie gluante fourrée à la pâte de haricots rouges ou par autre chose.
Mais traditionnellement.
Voilà. Et les mochi, maintenant, beaucoup la côte, on en trouve partout en France.
Ça, c'est pas très
Et voilà. Et au Japon, la légende raconte, et ça, c'est important, que les mochi sont fabriqués par le lapin lunaire.
Ah, le revoilà.
Le revoilà. D'accord. Et c'est pour ça qu'au Japon, particulièrement, il y a des lapins vraiment partout pour vendre les mochi.
D'accord.
Et tous les dérivés, bien évidemment.
Ah, j'avoue que j'avais pas fait attention à
ça. Parce qu'il y a beaucoup de goodies.
D'accord.
Okay. Voilà. Bon, moi, je vous propose une pause musicale en chinois. Ouais. Hein, c'est la chanson ultra luminescente d'un animé chinois qui s'appelle Voyage vers la Lune. Et c'est un très, très joli dessin animé, long métrage.
Okay.
Et la chanson est rigolote.
Ok, alors écoutons.
luminescente, une chanson de dessin animé merveilleux de Voyage vers la Lune. Un dessin animé chinois qui raconte l'histoire de Shang-Gé et qui fait pleurer les jeunes filles.
Ok, écoute, voilà, c'est ça. On dira tout à la fin de l'émission. Okay.
Bon, Didier, maintenant, tu nous parles des jardins zen.
Oui.
Alors, c'est quoi la particularité d'un jardin zen?
Alors, quand on parle de jardin zen, on pense tout de suite au Japon.
Mais c'est vrai.
Mais oui, mais avant, un peu d'histoire. Ah, c'est à moi de faire un peu d'histoire. On repart en Chine, où les jardins zen sont nés. Alors, le jardin chinois mêle nature et architecture. Il y a des origines taoïstes remontant à 4000 ans.
Ah oui,
c'est pas récent, une
fois
de
plus. C'est ancien.
Il intègre l'eau, la pierre et des éléments architecturaux. Ces jardins ont pour but, comme tous les jardins, d'apporter la paix dès qu'on y pénètre.
Oui, parce que c'est toujours ces jardins-là existent encore comme ça, on en
c'est
fait
ça.
Encore des comme ça.
Exactement.
Comme il y a 4000 ans.
Oui, on croyait à l'époque que le premier jardin chinois se trouvait au sommet d'une grande montagne, sur des îles au milieu de la mer, et qu'il gardait le secret de l'immortalité. Nous revoilà dans l'immortalité. Les trois éléments, montagne, île et mer, jouent donc un rôle déterminant dans la conception et on va les retrouver dans des jardins japonais aussi.
Alors, quand et comment s'est développé le jardinage en réalité? Parce que c'est vrai, on ne sait pas quand chez nous.
Quand on est passé de la nature au jardin.
C'est ça, quand est-ce qu'on est passé de la nature au jardin?
Alors, le jardinage chinois, en tant que tel, ne s'est développé qu'au IIe siècle après Jésus-Christ.
Oui.
À cette époque, les Chinois ressentaient le besoin d'avoir un endroit où ils pouvaient chasser et se reposer. L'esthétique ne trouvera son importance que des années plus tard, en fait, sous le règne de la dynastie Ming, à partir du XIVe siècle. Donc, il a fallu un peu de temps.
Oui.
Les empereurs, les religieux et les bourgeois appréciaient ces jardins qui recréait une nature idéalisée, pouvant permettre de méditer et surtout sur la dynastie Qing entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle, que les empereurs ont fait appel à des artisans compétents venus de tout le pays pour créer des jardins encore plus élaborés.
Oui, c'est ça. On parlait de jardins qui étaient quand même très rudimentaires au début, jusqu'à des choses...
Petit à petit.
Et du coup, c'est récent.
Oui,
c'est assez récent. L'esthétique.
Oui. Ah, celui qui veut aménager un jardin chinois doit être bien conscient que son jardin doit se faire sans chercher à dominer la nature.
Ah oui, c'est ça qui est important. Ne pas dominer la nature.
Voilà. Il est important d'éviter de tailler les plantes, car ça veut dire qu'on va vouloir les contrôler, et c'est pas l'idée. Pour cette raison, il faut connaître les espèces adaptées qui feront partie du jardin, les planter dans les endroits où elles pourront croître à leur propre rythme.
Oui, on leur laisse la liberté, en fait.
C'est ça. En outre, il faut savoir comment le climat affecte le terrain et la façon dont les plantes réagissent au fil des saisons. C'est pourquoi les jardiniers traditionnels chinois créent leur œuvre en suivant les pratiques du feng shui, c'est-à-dire en étudiant chacun des éléments du lieu pour tirer parti des flux d'énergie et maintenir son harmonie.
Oui, on avait vu ça, Molévrier, c'est vrai qu'il était fait selon les règles du feng shui. Alors, quels sont les éléments d'un jardin chinois, Didier ?
Alors, tout d'abord, il y a de l'eau. C'est un élément principal. Il y a la pierre qui représente la montagne sur des îles, et dans l'eau vivent des carpes koi.
Ah ben bien sûr.
Et oui, il y a aussi des éléments architecturaux comme des ponts, des pavillons, des arches, des galeries, des pagodes. Il y a une maison. Toutes ces fenêtres devront être orientées sur le jardin. Attention. Il y a de très beaux jardins partout en Chine. Au nord, on peut visiter les jardins impériaux et au sud, des jardins privés magnifiques, mais un peu plus petits.
Oui, on imagine. Alors, quand est-ce que sont apparus les jardins au Japon, les jardins zen ?
Alors, au VIe siècle, grâce à un diplomate envoyé en Chine, une fois de retour au Japon, il décrira les nombreux jardins chinois qu'il avait pu visiter. Ça va forcément faire avis aux aristocrates qui vont donc en développer la création sur le modèle chinois.
Mmh.
Les premiers jardins japonais étaient formés de grands étangs pourvus d'îles qu'on parcourait en barque, les pierres dressées symbolisant les montagnes, puis sont apparus les jardins zen, lieu sobre, plein de symboles qui représentaient aussi un microcosme d'une nature miniature dépouillée de tout artifice.
Ah oui, on est passé de jardins qui étaient quand même assez grands en surface à des jardins beaucoup plus petits. Alors, les symboles que l'on retrouve dans les jardins sont religieux, Didier ?
Oui. Et il ne faut pas oublier que le Japon est resté isolé du monde pendant de nombreux siècles, les humains vivant en harmonie totale avec leur environnement, et la religion Shinto est à l'origine de ce lien fort entre les hommes et la nature.
Mmh.
Donc les éléments naturels, montagnes, cascades, rochers, arbres, sont la demeure des kami, les esprits, dont on a déjà parlé.
On en avait parlé avec les arbres, tu nous avais raconté ça.
Les jardins vont donc se développer autour des temples après le VIe siècle. Les moines vont aménager des espaces sacrés autour de leur sanctuaire avec des pierres encadrées de sable et de gravier.
Oui, on a bien ça en tête. Il y a même des petits jardins miniatures qui sont vendus comme ça avec le petit râteau.
Oui, voilà, ce côté petit. Oui,
pour se faire son
mini-zen à la maison.
Son mini-zen à la maison. Alors, depuis quand parle-t-on vraiment de jardin zen ?
Alors, on en parle vraiment à partir du XIe siècle environ, après l'apparition du bouddhisme venu de Chine. Petit rappel, le bouddhisme japonais est basé sur la méditation assise, le zazen, et consiste au détachement, à la volonté de vivre l'instant présent, ici et maintenant.
Mm.
Donc le bouddhisme zen se développera peu à peu, tout en intégrant les traditions shinto des ancêtres. Ces jardins plus petits représentent l'univers entier.
Mm.
Puis, au XIVe siècle, les premiers jardiniers professionnels vont faire leur apparition grâce aux nobles qui veulent posséder leur jardin de contemplation. Ensuite, vers l'an 1500, le style de jardin japonais Shiden, encore plus raffiné, fait son apparition avec les maisons de thé.
Ah oui, les fameuses maisons de thé.
Voilà, c'est associé. Dans ces jardins, un maître du thé pratique la cérémonie du thé et les premiers bouquets Ikebana y sont exposés.
Alors, on arrive presque au XXe siècle.
Tout à fait.
C'est Edo et Meiji. Du début du XXe siècle.
Ouais, c'est ça. Et à cette époque, les jardins deviennent des jardins de promenade avec des allées couvertes au bord ou au-dessus de l'eau. L'influence occidentale fera apparaître des étendues de pelouse avec de la diversité, des plantations. Ces nouveaux jardins modernes vont détourner les Japonais de leur tradition et beaucoup de jardins japonais seront délaissés durant cette période. Il faudra attendre les années 1930 et l'influence de grands concepteurs de jardins pour relancer définitivement l'intérêt des Japonais pour le jardin zen.
Alors, comment c'est un vrai jardin zen, comme on peut, ce qu'on peut visiter au Japon aujourd'hui ?
Le jardin zen s'est élaboré toujours sur la notion de la pensée chinoise du vide et du plein. La surface centrale est vide de plantes et est ratissée selon les courbes régulières évoquant les vagues. Ce que tu parlais tout à l'heure.
Oui, avec le ensemble, mini jardin
voilà,
zen.
C'est ça. Ensemble, l'ensemble est entouré de murs, de bordures, de mousse et de plantes taillées. Parfois, quelques arbres ou arbustes. Les pierres utilisées dans le jardin japonais sont d'origine locale ou de même origine, homogènes en couleur et texture. Leurs tailles seront proportionnelles, harmonieuses entre elles. Elles retrouveront en général la même position que celle qu'elles avaient dans la nature avec la même exposition.
Les groupes de pierres. Même, on ne suppose pas tout ça.
Non, c'est codifié, c'est japonais. Les groupes de pierres sont dans l'idéal composés de nombres impairs, hein, 3, 5, 7. Pour bien symboliser une montagne, une pierre dressée sera entourée de pierres plus basses, comme le ferait un éboulis.
Mais alors, il y a des plantes quand même dans les jardins zen, Didier ?
Alors, à part les azalées, les fleurs sont généralement exclues du jardin zen. On préfère des plantes à feuillage persistant avec des formes graphiques comme les pins, les bambous et bien sûr les érables du Japon. J'adore ça. Les fougères, les mousses.
C'est si beau.
C'est ça. Dans un jardin japonais, les plantes peuvent être taillées en nuages. Niwoki, et en boule, sur tige ou en forme de bonsaï. La symétrie n'existe pas dans le jardin japonais, mais les arbustes, les arbres sont plus grands, sont taillés par transparence. Vous voyez, ça consiste à alléger leur structure de branches, se réduisant à l'essentiel pour dévoiler la nature de chaque plante qui se trouve dans le jardin. Moi, je rêve d'avoir un jardin comme ça. Très codifié,
un jour,
très cadré. Ça fait sourire quelqu'un que vous n'avez pas vu, mais qui nous a apporté des gâteaux de lune parce que tout est lié.
Oui, et qui est à l'origine de l'émission.
Et voilà, c'est ça.
C'est Héloïse. Merci, Héloïse.
Qui m'a dit, mais c'est, vous n'en parlez pas ? Héloïse, c'est ma fille. Voilà, comme ça, tout le monde sait.
Bon, Didier, Asialogie, c'est fini.
C'est ça.
Les amis, on se retrouve bientôt. On se retrouve samedi matin, 9h30 pour la rediffusion. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine à 12h. Toujours sur Radio Alpa 107.3. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. On vous souhaite une bonne semaine.
Voilà.
Salut, à bientôt.
Et toujours avec grand plaisir. Et sur la page Facebook, si vous avez mangé des gâteaux de lune, dites-nous si vous avez aimé ou pas.
Moi, je sais, j'adore ça.
D'accord. Allez, à la semaine prochaine.
Et on en trouve au Mans.
Oui, bien sûr qu'on en trouve. À la semaine prochaine.
Salut.